La route du large, podcast by Tendance Ouest.
De retour pour une nouvelle saison en solitaire, en course au large, après la Transat Jacques Vabre en double cet automne. Charlie Dalin est à nos côtés, bonjour.
Bonjour.
D'abord, depuis l'arrivée de la Transat, qu'est-ce qui s'est passé, autant pour le bateau que pour vous?
Alors, ça a été assez intense hein, depuis le retour de la Jacques Vabre, parce que je crois que... Enfin, j'en suis sûr. Même d'ailleurs, on a atterri avec l'équipe à Paris en rentrant en avion pendant que le bateau rentrait par la mer avec l'équipe. Et en fait, on est arrivé vers midi en Bretagne et voilà, l'après-midi, j'étais directement au chantier pour avancer sur le nouveau bateau, sur la conception du Happy Via 2. Donc voilà, c'était un hiver qui a été beaucoup tourné sur la conception de ce nouveau bateau. En parallèle aussi, forcément, l'optimisation du bateau actuel, puisque c'est le bateau actuel que je vais utiliser toute la saison, y compris sur la route du Rhum en fin d'année. Donc voilà, beaucoup de temps sur le nouveau bateau, mais aussi sur le bateau actuel. Donc voilà, un hiver assez studieux pour moi, pour préparer cette saison et les saisons futures.
Il est encore possible de l'améliorer, le premier Happy Via, alors qu'il a déjà été finalement en chantier avant la Transat Jacques Vabre. On peut encore faire mieux?
Oui, bien sûr. On a encore fait des petites modifications pour progresser en ergonomie, en performance aussi. Voilà, on a une année importante. C'est l'année Route du Rhum. C'est le deuxième plus gros objectif du projet pour ce cycle de 4 ans là depuis la Transat Jacques Vabre 2019. Donc voilà, c'est une année importante, c'est une année solitaire. Ça tombe bien, j'affectionne ça particulièrement. Donc l'année dernière c'était double après le Vendée Globe, mais ce qui était plutôt bienvenu après la fatigue du Vendée Globe de faire une année à deux sur le bateau. Mais cette année c'est 100% solitaire.
Oui, ça n'a rien à voir une récup après le Vendée Globe qu'une récupération physique après la Transat où vous êtes deux, où c'est beaucoup moins long.
Ouais, on est deux, ça a duré un petit peu moins de 19 jours. Oui, c'est pas la même chose que les 80 jours en solitaire du Vendée Globe. Et ouais, j'ai déjà récupéré cette course, alors que le Vendée Globe, voilà, jusqu'au mois d'août de l'année dernière, j'étais encore fatigué.
La saison, en plus sportive, je crois qu'elle reprend un peu plus tôt. C'est quoi les grands jalons avant forcément la route du Rhum et le départ le 6 novembre?
C'est ça. Alors, la première course va effectivement arriver très vite, puisque c'est départ le 8 mai. De Brest, donc pour un triangle dans le proche Atlantique, entre donc le sud de l'Irlande. On va aller faire le tour du Fastnet, du Fastnet au sud de l'Irlande. Après, on va descendre vers la pointe espagnole du côté de la Corogne et remonter à Brest. Donc tout ça, bien sûr, sans escale et en solitaire. Donc ça va durer 3-4 jours environ de course. Après, on a un morceau qui est une course qui s'appelle la Vendée Arctique, qui va être assez longue, assez difficile, puisque donc au mois de juin, on va partir des sables, on va faire le tour de l'Islande. Enfin, je vais faire le tour de l'Islande en solitaire sur le bateau et revenir aux sables. Donc là, il y en a pour une bonne dizaine de jours. Voilà, ce qui va être sympa sur cette course, c'est qu'on va se retrouver à toucher le cercle polaire fin juin. Donc on devrait se retrouver avec pas de nuit. Du tout, donc ça va être assez magique, sûrement un petit peu de froid aussi, après un petit chantier cet été de mi-juillet à mi-août pour préparer faire les derniers préparatifs du bateau, les dernières révisions avant la préparation pour la route du Rhum. Et bien sûr, il y a tous les stages d'entraînement qui sont répartis tout au long de l'année entre les courses.
Quand on est en Islande, on peut quand même prendre de l'expérience pour après la route du Rhum, où on va plutôt vers le sud, vers la Guadeloupe. Ouais, enfin, voilà, est-ce qu'il y a des choses qu'on peut attraper en se disant bah voilà, ça va me servir pour la route du Rhum?
Ouais, beaucoup forcément sur la performance du bateau, sur la gestion des manœuvres de la navigation solitaire. C'est sûr que c'est pas du tout les zones de vent. Voilà, on va pas naviguer dans les Alizés, contrairement à ce qui va se passer sur la route du Rhum. Voilà, par contre, c'est une course où en fait on va beaucoup traverser les systèmes météo. Il faut savoir que toutes les dépressions, les petites tempêtes qu'on peut avoir qui passent sur la France, en fait elles se déplacent d'ouest en est. Là c'est une route qui est pratiquement nord-sud, on va dire, et du coup en fait on va beaucoup traverser de systèmes, donc ça veut dire beaucoup de changements de voile, beaucoup de changements de conditions, donc ça va être assez intense sur cette durée de course. Donc voilà, je vais pouvoir beaucoup travailler justement ces changements de voile, ces manœuvres en solitaire qui prennent beaucoup de temps en IMOCA.
Là, le solitaire, justement, c'est, vous disiez tout à l'heure, j'ai hâte de retrouver cette sensation-là. C'est voilà, c'est vraiment ça, une hâte, une envie.
Ouais, vraiment une envie. Voilà, après l'année dernière en double, qui était, voilà, comme je disais tout à l'heure, qui était vraiment agréable après avoir passé tant de temps solitaire sur le bateau. Voilà, c'est malgré tout, c'est le solitaire, c'est ce que je préfère. Donc voilà, j'ai hâte de me retrouver sur Apivia en course, parce que mine de rien, la dernière fois que c'est arrivé, c'était sur le Vendée Globe. Puisque depuis j'ai pas fait de course en solitaire, donc voilà, ça sera la Bermude Bill le 8 mai, ça sera mon retour en solitaire, et voilà, d'être juste d'être le bateau et moi. Voilà, c'est ça que j'aime, d'être voilà, de faire les manœuvres, de faire les décisions, de tout gérer, aussi gérer les petites réparations, les petits bricolages tout seul. Voilà, c'est ce que j'aime le plus.
Dans quelques semaines maintenant, le nouveau bateau, voilà, ça sera encore à un autre niveau. On en est où là? On est encore sur les plans ou il y a déjà du physique?
On est complètement sur les plans. Il commence à y avoir du physique, mais vraiment tout récemment, que depuis la semaine dernière. En fait, on a construit une maquette avec l'équipe, une maquette à l'échelle 1 du cockpit, donc de la zone de travail. Parce que voilà, forcément tout ça est modélisé en 3D, mais c'est important de s'en rendre compte. Donc on a fabriqué une maquette en bois à l'échelle 1 du cockpit, et aussi l'usinage du moule pour fabriquer la coque a débuté. Donc moi, je suis passé voir ça la semaine dernière aussi. Donc voilà, c'est la première fois que je voyais du concret, en fait, hors modélisation 3D ou tableur Excel ou autre, de vraiment voir le bateau, quoi. Donc enfin, pas le bateau, mais de voir quelque chose de physique au bateau. Et voilà, c'est assez bien après tant de mois derrière les ordinateurs, devant les résultats de mécanique, de simulation numérique, de tableur Excel, de dessin en 3D, de vraiment voir à quoi il va ressembler. C'est un bon début.
Est-ce que dans la voile, il y a un enjeu un peu de secret professionnel, secret industriel, on va dire, on n'a pas trop envie d'en dire quand on a un nouveau bateau comme ça?
Oui, complètement, parce qu'il y a beaucoup de bateaux en construction pour le prochain Vendée Globe. Voilà, chacun essaye de dévoiler forcément ses cartes le plus tard possible. C'est toujours intéressant de voir voilà, quelles sont les niveaux, les innovations des uns et des autres. Et voilà, chacun joue assez fermé pour l'instant. Donc voilà, on a quelques, voilà, en fonction des différentes communications des unes et des autres équipes, on a quelques idées de ce que vont faire les autres, mais vraiment très peu. Et oui, et voilà, nous non plus, on dévoile le moins de choses possible sur ce nouveau bateau.
On peut dire qu'il y aura des foils quand même.
Ah oui, ça c'est. Ouais. Il aura des foils, une quille, de safran. Voilà, il y a...
Non mais bon, c'est vrai que pour les Havrais qui ont l'habitude de se balader sur les quais de la Transat, on voit que les IMOCA, finalement ils se ressemblent, mais sans vraiment. Il y a toujours des foils un peu originaux.
Il y a beaucoup de différences. Il y aura encore des différences cette année, c'est sûr, dans les formes de coques, dans les formes de foils. Voilà, c'est ça qui est la classe IMOCA est très dynamique. Il y aura beaucoup de, il y aura, on estime entre 12 et 15 nouveaux bateaux pour le prochain Vendée Globe. Et du coup, voilà, ça fait beaucoup de concurrence. Le niveau va encore augmenter au sein de la flotte. Voilà, les bateaux de la génération 2020 seront aussi encore assez performants, mine de rien, par rapport à la génération 2024. Donc, voilà, on va commencer à les voir, à naviguer, puisque une partie des nouveaux bateaux vont être mis à l'eau dès cette année et participeront à la Route du Rhum. Donc, moi, je vais pouvoir me confronter avec la PVA actuelle à ces nouveaux bateaux. Donc, on va pouvoir déjà jauger, voilà, quel est le gap de performance de ces nouveaux bateaux. Et l'année prochaine, ça sera avec le nouveau bateau qu'on se confrontera à ces nouveaux bateaux qui sont déjà mis à l'eau cette année et les suivants qui seront mis à l'eau cet hiver l'année prochaine.
Quand on se lance dans un nouveau bateau comme ça et qu'il y a une crise Covid, une crise ukrainienne, etc., est-ce qu'on regarde aussi ça, c'est-à-dire en se disant, bon, je ne parle pas forcément de l'Ukraine, mais on sait que le Covid, ça peut retarder des arrivées de pièces, etc. Est-ce que c'est...
Oui, bien sûr, parce que ce qu'on... comme beaucoup, l'inflation sur les matériaux, notamment, on la ressent, parce que voilà, il faut pour fabriquer un IMOCA, il faut du carbone, il faut de la résine, il y a des pièces en métal, donc et voilà, on sent ça pas mal dans les budgets aujourd'hui. Après, En termes de Covid, je suis plutôt positif, donc je me dis que ça ira. J'espère que l'épidémie est globalement derrière nous, je l'espère en tout cas. Mais voilà, on est pas mal, on est pas mal impacté sur l'inflation des prix des matériaux. Oui.
Alors vous êtes au Havre pour rencontrer des partenaires, la communauté urbaine, la SNSM. Vous êtes aussi allé dans votre club, le SNPH. Et justement, au SNPH, il y a un petit gars qui se lance dans la course au large, Timothée Paulet. Son objectif, c'est la route du Rhum 2026, après des transats Jacques Vabre. Quel regard vous portez sur ces jeunes qui se lancent à leur tour dans la course?
C'est super ouais, de voir. Voilà, je crois qu'il y aura potentiellement trois, deux ou trois aux autres Havrais au départ de la route du Rhum en classe 40. Voilà, par rapport à ces 10 dernières années où il y avait pratiquement pas de Havrais qui faisaient de la course au large. Je trouve ça super de voir du dynamisme, de voir que voilà, que des gens s'y mettent, que ça fait des rêver des une nouvelle génération pour se lancer dans ce sport.
Merci Charlie Dalin d'être venu nous voir dans nos studios de Tendance Ouest au Havre. Les prochains rendez-vous, donc je les rappelle, ce sera la Bermude 1000, départ le 8 mai de Brest, la Vendée Arctique le 12 juin. Et puis évidemment la route du Rhum en fin d'année le 6 novembre, Saint-Malo, Guadeloupe, objectif victoire, mais on aura l'occasion d'en reparler d'ici là.
La route du large, le podcast.